Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique La Minute du CIDFF sur 48 FM du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Aujourd'hui, nous avons Claire Leblanger avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Ludo.
Alors, on va parler aujourd'hui de la place des femmes dans l'histoire, des femmes dans l'histoire. Finalement, on a l'impression un peu que c'est cette place des femmes, on a tendance à l'éluder.
Et tout à fait. Et en fait, c'est vrai que c'est une impression, mais qui vient pas de nulle part. Quand on pense à l'histoire, comme on dit souvent avec un grand H, on peut citer beaucoup plus facilement des grandes figures masculines que des grandes figures féminines. Et du coup, moi, je trouvais ça intéressant de se poser la question de pourquoi et de faire un retour dans le passé pour questionner, en fait, la situation d'aujourd'hui, en fait.
Et pourquoi, voilà. Justement ?
Alors, pour plein de raisons différentes, et c'est ça qui est compliqué et qui nous montre que c'est quand même quelque chose de très présent, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont ici à l'œuvre. Donc, en fait, je vais essayer de les expliquer assez simplement. Il y a deux échelles, déjà. La première échelle, c'est à l'échelle globale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on efface la place des femmes dans la société, de manière générale. Alors, il y a un premier phénomène et qui commence à être un petit peu connu, mais c'est un peu le début. C'est que, par exemple, quand on fait des recherches sur le passé, alors souvent les premiers à avoir cherché, à avoir fait des recherches, c'était des hommes qui avaient un avis qui présupposait que ce qu'ils allaient trouver, c'était, ils avaient un avis déjà orienté, si tu veux, et donc ce qu'ils trouvaient, ils partaient du principe que c'était masculin. Je pense que tu as eu les mêmes références que moi dans les bouquins d'histoire des hommes préhistoriques où on a toujours dit avec certitude que les hommes étaient à la chasse et les femmes à la cueillette. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout une certitude, ça n'est même absolument pas prouvé. Et il y a une femme, une préhistorienne, qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a aucune certitude. Voire même, on trouve des ossements qu'on peut aujourd'hui identifier comme féminins, avec les traces de la chasse, des choses comme ça. Donc ça vient bousculer toutes ces théories, voilà, avec ce regard biaisé.
Voilà, parce que j'avais demandé à quand tu remontes, mais on remonte même très
loin. C'est un peu tout le temps dans l'histoire, là je remonte à la préhistoire, mais un peu plus récent si on peut dire. Il y a eu une découverte d'un squelette viking dans le nord, très décoré dans la tombe avec beaucoup d'armements, des haches, des épées, beaucoup de bijoux, des chevaux sacrifiés, un jeu de stratégie. Donc tout de suite la conclusion c'était c'est un grand chef viking qui a été très honoré, très riche, etc. En 2014 on fait une analyse ADN, surprise, squelette féminin. Ce à quoi les chercheurs vont encore résister en disant oui, c'était probablement une tombe partagée avec son mari, son compagnon, et c'est les bijoux de son compagnon, etc., etc. Il faut encore 3 ans pour qu'on se rende compte que non, avec toutes les fouilles, il n'y a que son ADN à elle, qu'elle a été toute seule enterrée et que c'était elle, la chef viking et décorée. Mais tu vois, il y a même une résistance, même quand les preuves sont là. Donc, voilà.
Alors, si on revient à une époque un peu plus récente, les femmes ont pris leur part dans l'histoire, mais on peut avoir tendance à les effacer. Est-ce qu'on peut avoir d'exemples de femmes qui ont été mises un peu au second plan par les hommes, alors que, par exemple, pour des découvertes, ce sont elles qui les ont faites ?
Ouais. Alors ça, c'est plus à une échelle, effectivement, une échelle individuelle. Tout à l'heure, on parlait de l'échelle collective, de dire les femmes, de manière générale, sont un peu effacées. Mais ça n'a pas empêché, effectivement, à toutes les époques, d'ailleurs, certaines femmes de faire des découvertes, de faire des inventions, de créer des œuvres, etc., etc. Et celles-là aussi, on a tendance, comme tu le dis, un peu à les effacer. Alors, par exemple, je vais te parler de la science, le monde de la science. Il y a un phénomène qui s'appelle l'effet Mathilda. Et c'est justement ces femmes scientifiques qui ont fait des grandes découvertes, mais qui n'ont pas... C'est pas leur nom qui apparaît sur la découverte. Alors là, j'en ai mis deux qui sont assez parlantes. Rosalind Franklin, qui est en fait celle qui va découvrir la forme en double hélice de l'ADN, donc quand même une sacrée découverte. Elle se fait voler son travail par deux chercheurs, deux hommes, Watson et Crick, qui eux obtiennent le prix Nobel de médecine à sa place. On a aussi Lise Meitner qui participe aux travaux sur l'uranium et qui va découvrir avec son collègue la découverte, qui va découvrir la fission nucléaire. Et il n'y a que lui qui est cité, il n'y a que lui qui a le prix Nobel. Donc même quand elles font des choses, parce qu'en fait on a longtemps pensé que c'est parce qu'à l'époque elles ne pouvaient pas faire, on les empêchait de faire, elles n'ont pas participé à l'histoire parce qu'elles n'avaient pas le temps, on les mettait à la cuisine, etc. il y a une part de ça, mais ça ne les a pas empêchés, le mythe de la femme d'empêcher, en fait, on y en revient. Elles ont fait, mais sauf qu'on s'est bien gardé de le montrer et d'en parler. On les a encore un peu mis sous le chapeau. Voilà, donc l'effet Mathilda en science qui commence à être pas mal connu. J'invite les curieux et les curieuses à se renseigner là-dessus.
Alors on comprend bien à l'échelle individuelle, certaines personnes par égoïsme ou d'hommes qui veulent prendre la lumière, qui prennent les travaux, comme tu viens de l'expliquer, de femmes. À l'échelle globale, on va y revenir, pourquoi vouloir effacer à l'échelle globale? Quel est l'objectif?
Alors une autre façon, alors l'échelle globale, donc il y a pas mal de suppositions et je pense qu'il n'y a pas une seule explication possible. C'est vrai qu'il y a pas mal d'époques, le masculin a trouvé confortable en fait de d'asseoir sa domination entre guillemets. Donc il y a pas mal d'époques où effectivement on a attribué à la femme un certain rôle et aussi une certaine non-responsabilité d'elle-même. Hein, dans des époques encore pas si lointaines, même en France, il fallait l'autorisation de son père ou de son mari pour signer des chèques, etc., etc. Donc il y avait une infantilisation qui a été très présente sous diverses formes selon les époques. Et puis, il y a aussi un truc dans la transmission de tout ça aujourd'hui, c'est le langage. Le langage, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est hyper important. Hein. On sait que le vocabulaire influence aussi la pensée. Et par exemple, aujourd'hui, on parle depuis quelques années de l'Académie française qui, très sympa, accepte de réfléchir à féminiser les noms des métiers. Mais en fait, ces noms féminins existaient déjà au Moyen-Âge. Il y avait des noms féminins pour tous les métiers ou presque au Moyen-Âge. Ils ont plutôt disparu vers le 16e, 17e siècle. Donc là, on nous fait croire que, mais non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas, mais on va leur donner une place. C'est l'inverse. Elles avaient cette place. Alors à l'époque, c'était un peu différent. On disait une peintresse, par exemple, une médecinière ou des choses comme ça. C'était des mots un peu différents, mais les femmes avaient des métiers, elles les exerçaient, et sauf qu'entre-temps, on a fait disparaître tous ces noms.
Alors on pourrait se dire la société évolue, justement, ces noms de femmes connues pourraient être rétablis, c'est pas forcément le cas?
Alors c'est pas encore suffisamment le cas, j'aurais tendance à dire. On essaye, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à faire ça, et notamment du coup qui écrivent des livres là-dessus, donc des historiennes, des personnes qui vont étudier vraiment ça. Il y a aussi une notion par exemple d'archéologie de genre, où là on va essayer de fouiller un peu pour le coup la place sociale de la femme à cette époque-là, dans l'archéologie. Et sinon, bah voilà, pour citer quelques personnes, Michel Perrault, qui est une grande historienne, qui a été une des premières à se poser la question, ok, mais en fait, les femmes dans tout ça, où est-ce qu'elles étaient, où est-ce qu'elles sont? Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les femmes ou le silence de l'histoire ». Il y a aussi Titiou Lecoq qui a sorti un livre, je crois, en début d'année ou l'année dernière, qui s'appelle « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ?» Donc on dit bien « l'histoire a effacé », pas forcément les hommes, mais c'est pour montrer que c'est un truc, c'est tout du long, quoi. Il y a aussi « Ni vu ni connu, Panthéon, histoire, mémoire, où sont les femmes ?» du collectif féministe Georgette Sand, dont je crois on avait déjà parlé ensemble. Et puis sinon, un peu plus connu, « Les culottés » de Pénélope Bagieux, qui, elle, justement, redore, entre guillemets, le blason de certaines femmes qui ont vécu des choses importantes dans l'histoire et qui refait leur histoire. Donc ça commence. Et par exemple, il y a des études qui montrent qu'au 19e siècle, la moitié des écrivains étaient des écrivaines. Et en fait, pour chercher ces écrivaines, il y en a plein qui étaient très connus à l'époque, on ne trouve plus. Mais il y a de plus en plus de personnes qui font ces recherches et on arrive à ressortir des choses. Mais elles n'étaient pas rééditées après leur mort. Elles n'étaient pas, on n'entretenait pas la mémoire en fait, des femmes, au contraire de celle des hommes, quoi.
Et c'est encore le cas aujourd'hui, si on s'oppose à l'heure actuelle, elles ne sont pas forcément mises en avant dans notre société sur plein d'aspects.
Ouais, alors effectivement, ça se retrouve partout. Et comme je te disais, on commence à essayer de réhabiliter ça, mais c'est pas encore le cas. Un exemple très concret, c'est les bouquins, hein, comme on parlait tout à l'heure, les bouquins d'histoire, les bouquins de français, qui citent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hommes et encore assez peu de femmes. Donc ça évolue. Toujours assez doucement, et on a un ministre de l'Éducation nationale qui dit que raconter l'histoire des femmes, ce serait trop militant et qu'il faut s'en tenir à l'histoire, ouvrez les guillemets, objective, alors qu'en fait, c'est cette fameuse histoire supposée être objective qui est hyper politique et qui a supprimé toutes ces femmes. Donc voilà, c'est pour ça que ça va pas très vite non plus dans l'évolution. Sur les rues, par exemple, à Paris, jusqu'en 2011, il y avait que 3% des noms des rues qui étaient des noms de femmes célèbres. Depuis, ils en ont rajouté 140, mais à chaque fois, c'est un parcours du combattant pour nommer une rue, etc. Au Panthéon, 75 hommes, 6 femmes, dont 2 assez récentes. Hein. Donc effectivement, ça questionne encore un peu. Et puis, aujourd'hui encore, on finance moins les projets des femmes, que ce soit dans les sciences, dans les arts, le cinéma, l'autre jour, ma collègue en a parlé, il y a beaucoup moins de films financer quand c'est une femme qui est derrière la caméra, etc., etc. Donc on a encore cette trace-là. Et dans notre inconscient collectif, on a le sentiment que les femmes ont moins participé. Et même à la préhistoire, les hommes qui chassaient, c'est grâce à eux qu'on a eu la viande. Donc déjà, il y avait une valorisation de ce qu'avait apporté de la contribution du masculin par rapport au féminin dans la société. Donc c'est tout un système qui s'imbrique dans plein de choses et voilà, qui explique en partie la société d'aujourd'hui. J'espère voilà, que ça a été assez clair. Soyez curieux, allez chercher. Et quand vous êtes prof, allez chercher et apprenez à vos élèves qu'il y a aussi, en histoire et en français, des femmes, beaucoup de femmes.
Merci Claire.
Merci à toi pour le temps que tu m'as donné.